Bonjour à toutes et à tous. Dans le mag aujourd'hui, chat alors avec Emeline, comportementaliste félin comme tous les vendredis. Et cette semaine, Emeline poursuit son exploration sur les capacités sensorielles des petits félins avec l'ouïe et le goût. Avant ça, premier épisode d'une série hebdomadaire avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. On va débuter avec la question de la biodiversité. C'est après Blondie, Maria, sur CFM Rhodes. She moves like she don't care. Smooth as silk, cool as air. Ooh, it makes you wanna cry. She doesn't know your name. And your heart beats like a subway train. You wanna take her?
CFM Rhodes, le mag.
Nouveau rendez-vous sur CFM Rhodes, rendez-vous hebdomadaire désormais, et j'espère bien, avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois, un collectif qui est notamment opposé à la construction, l'édification du Grand Parc des Expositions de Malan, avec d'ailleurs un recours contre le permis de construire qui a été déposé auprès du tribunal administratif de Toulouse il y a quelques semaines. Recours déposé par le comité Causse-Comtal qui porte ce recours et qui collabore aussi avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. Bonjour Daniel Mazel.
Bonjour.
Vous êtes vous-même membre de cette association comité Cause Comtal, hein ?
Oui, je suis membre depuis 25 ans de ce comité, cette association.
Et pour ce premier numéro, avec vous sur CFM, on va aborder la thématique de la biodiversité. Alors, autour de Malan, et peut-être aussi de façon un petit peu plus générale. Le problème, c'est quoi ?
Le problème qui se pose sur Malan, mais de façon plus générale, le problème de biodiversité, qui est la perte d'un certain nombre d'espèces, et on parle d'ailleurs actuellement de la 6e extension qui est en cours. Mmh. Donc dès qu'on fait des projets, qu'on va urbaniser, on va détruire des espèces qui étaient sur ces milieux naturels. Donc cette perte d'espèces va fragiliser l'équilibre de tout un système. Voilà.
Je comprends bien votre émotion presque, Daniel. Hein, mais bon, Malan, c'est quelle surface le projet ?
Donc Malan, c'est 25 hectares.
Ouais.
Mais sur ces 25 hectares qui étaient des terres agricoles, il y a entre autres été recensé lors de l'enquête qui est obligatoire 35 espèces qui sont protégées, dont un certain nombre donc d'oiseaux.
Par exemple,
il y avait donc la fauvette à tête noire, le pivert, la buse variable, voilà, quelques-uns.
D'accord.
Donc, qui nichaient sur cette partie-là. Et donc, forcément, ce projet va détruire leur espace. Ils ne pourront plus nicher dans ce lieu-là.
Alors, la législation française, depuis quelques temps, pas très longtemps, d'accord, mais elle prévoit quand même des situations comme celle-là où on construit quelque chose, on sait qu'on fait du dégât pour la biodiversité. Et on s'arrange un peu avec, quoi. Je vais pas vous dire qu'on va vous mettre des nichoirs sur le parc des expos de Malan, mais il n'y a pas un truc de prévu ?
Si, il est prévu, puisqu'il y a une obligation, lorsqu'il y a des projets d'artificialisation des sols, de recenser les espèces protégées et de prévoir une compensation, un déplacement ou une autorisation de destruction si ce n'est pas possible. Donc c'est d'ailleurs suite à ces enquêtes que les 35 espèces ont été recensées sur le site donc de Malan, de la zone d'activité de Malan. Donc les compensations qui ont été proposées à l'époque consistaient essentiellement à faire un déplacement vers le site de Combelles. Il se trouve que sur le site de Combelles, en gros, les espèces concernées existaient déjà. Donc, ça n'est pas une vraie compensation. C'est-à-dire que ce qui a été perdu à Malan ne serait pas compensé ailleurs.
Les déplacements, ça veut dire qu'on prenait les petites fauvettes de Malan et on les mettait dans une petite cage le temps de les envoyer à Combelles et on les libérait là-bas,
c'est voilà, ça ? L'idée, c'est de retrouver un espace, ouais, leur permettre d'avoir un espace à proximité, à proximité, qui corresponde à leurs besoins.
Alors, bon, sinon, est-ce que c'est vraiment si grave sur 25 hectares de voir des animaux soit se déplacer, des espèces même protégées. Je peux comprendre que ça vous embête, ça vous inquiète.
Alors, on peut dire effectivement que 25 hectares, par rapport à un département comme l'Aveyron, ce n'est pas très important. Mais si on regarde avec un peu de recul, c'est quand même en France 50 à 60 000 hectares chaque année qui sont détruits. Si on prend l'Aveyron, pour revenir plus spécifiquement, et la zone ruthénoise, en fait la région, l'agglomération ruthénoise au sens large, c'est des zones d'activité qui sont créées régulièrement sur tout l'axe, sur la RN 88. Rien que l'agglo a 14 zones d'activité avec plus de 460 hectares. Donc ces 25 hectares se rajoutent à un certain nombre d'autres zones d'activité au commercial qui ont été créées les années précédentes. Donc on est tout le temps quand même dans une marche en avant de tout le temps recréer des nouvelles zones commerciales ou d'activités. Et avec ces zones, il y a aussi des routes qui sont créées, qui vont aussi prendre donc une certaine artificialisation aussi pour ces routes. Là, une fois qu'on fait un projet, eh bien on s'aperçoit que les accès actuels ne seront pas suffisants et donc on va prévoir d'autres routes pour y accéder. Bon. Ce n'est encore qu'un projet, mais ça sera encore des zones qui seront donc détruites.
Alors vous avez parlé des zones commerciales, notamment dans l'axe nord-sud de Rodez, le long de la Nationale 88. Bon, c'est vrai qu'à vue d'œil, il y en a, je ne vais pas vous dire le contraire, mais apparemment il y en a même beaucoup.
Oui, alors c'est vrai que les Ruthénois ou plus généralement les habitants autour de l'agglomération de Rodez doivent se rendre compte qu'il y a beaucoup de zones d'activité ou zones commerciales, mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est que cette région-là est surdotée en local commercial, puisqu'on a à peu près un local pour 40 habitants sur la région ruthénoise, alors que la moyenne nationale était de 1 pour 68. C'est pas nous qui l'avons inventé. C'était dans la révision du PLUI du Grand Rodez en 2017 où cette information figurait. Donc c'est le Grand Rodez qui nous a tenu, nous a permis de connaître cette information-là en 2017.
D'accord. Alors après j'ai envie de vous dire bon qu'il y en avait plus que la moyenne nationale pour Rodez. À la limite, enfin d'un point de vue de collectivité, qu'il y ait des gens qui travaillent aussi, du moment que ces locaux, ces zones d'activité sont bien actives, il y a un avantage.
Alors, si on entend certains élus, entre autres de Rodez même, de la ville même, je les ai entendus regretter que les commerces de centre-ville disparaissent et du manque d'attractivité. Donc, quand on crée ces zones commerciales en périphérie, eh bien, on est en train de vider les centres-villes. Donc, c'est du transfert d'activité plus que de la création d'activité. Le bénéfice net, et je ne suis pas sûr qu'au niveau emploi soit intéressant, puisque quand on voit que sur des grandes zones commerciales, si on prend un magasin de vente de vêtements, il y a une grande surface avec peut-être une ou deux vendeuses, c'est souvent des vendeuses, alors que sur des petits magasins de Rodez, il y avait peut-être plus de personnes pour la même surface commerciale. Hein.
Alors ce combat contre le parc des expositions de Malan, qui, bon, a priori, si tout va bien pour... Le plan, en tous les cas, ces promoteurs devraient voir le jour en 2023. Pour vous, c'est plus l'élément de trop, la goutte d'eau qui fait déborder le vase d'une densité commerciale déjà trop importante et qui abîme la biodiversité de l'Aveyron, c'est ça ?
Oui, c'était de la biodiversité qui est mise en cause, mais c'est un élément supplémentaire. Mais quand on a eu l'occasion de dénoncer d'autres zones d'activité, je vais prendre le cas de la zone au nord de Rodez à l'Estréniol, donc où il y a eu une extension qui a eu lieu en 2015. Là aussi, ils ont détruit, ils commencent les travaux sans autorisation de détruire ou de déplacer les espèces. C'est-à-dire que la logique d'aller en avant et de construire a primé sur les questions environnementales. On l'avait dénoncé, ça avait été sans effet. On l'a dénoncé en 2017 en disant que ce qui était proposé sur Malan ne correspondait pas à une réalité, c'est-à-dire que c'était plus de la semblant de protection. On n'a pas été entendu. C'est pour ça qu'on a décidé de passer avec le collectif de protection des terres agricoles du Ruthénois à la phase judiciaire en disant si on veut effectivement que les élus nous entendent, il faut peut-être effectivement aller en justice pour que les gens se rendent compte des effets néfastes qu'ont ce type de projet.
D'accord. Vous êtes de façon vraiment opposé au projet du parc des expos de Malan, où il y aurait, si on révisait un peu justement ce permis de construire, le plan, qu'on mettait un peu moins de béton, que ça serait plus de terre, je sais pas, il y aurait une façon d'avoir quand même le parc des expos sans problème de biodiversité, ou c'est tout ou rien ?
Je ne peux pas être extrémiste, mais c'est plutôt rien, parce que, comme l'ai dit précédemment, on est déjà surdoté en zone commerciale d'activité. On nous présente un futur parc d'exposition, mais on s'aperçoit bien que ce type de projet maintenant date de 10-20 ans et que c'est plus du tout dans l'air du temps. Il y a 2 ans, donc il y a eu un plan pour la reconquête de la biodiversité au niveau national. L'idée est de dire il faut maintenant arrêter d'artificialiser ces sols, puisqu'on s'aperçoit de l'importance qu'il y a effectivement de préserver la biodiversité par rapport à toute la disparition d'espèces, au changement climatique, et on a l'impression que ici on est avec 10 ans de retard, on continue tout le temps sur le même schéma. Il faut continuer à créer de nouvelles zones parce que ça va permettre de développer l'activité. On a 10 ans de retard par rapport à ce qui est préconisé actuellement.
Et alors après, parce qu'en face, il peut y avoir aussi une certaine forme de réalité. On peut comprendre des élus qui disent bon, moi j'ai des Aveyronnais qui ont envie de travailler. Et si possible en Aveyron, pas ailleurs, il faut bien qu'ils aient du travail en Aveyron. Et un parc des expositions, ça peut en être. Donc vous avez proposé des alternatives ?
Moi, je peux en parler rapidement, mais donc d'autres collègues du collectif auront l'occasion de venir développer davantage. Oui. Mais il existe un certain nombre de salons qui ont lieu sur le Ruthénois depuis un certain nombre d'années. Et il y a beaucoup de salles qui existent. Déjà, il y a existé à Rodez, entre la salle des fêtes qui a été faite récemment, l'amphithéâtre. Sur Honnay, il y a aussi des salles, enfin des salles des fêtes un peu partout, qui ont l'avantage déjà d'être en centre-ville, donc de limiter les déplacements. Et en plus, qui vont faire travailler les commerces de centre-ville au lieu de tout externaliser à quelques kilomètres de Rodez, qui induira effectivement des déplacements en voiture. Et on va créer de nouvelles activités là-bas, mais qui vont vider celles qui avaient lieu avant dans le Grand Rodez ou dans Rodez.
Daniel Mazel, je rappelle que vous êtes membre de l'association du comité Causse-Comtale, hein, et puis que notre thématique avec vous aujourd'hui, c'est la biodiversité. Vous êtes observateur de la nature, les animaux, vous aimez bien ou pas spécifiquement? Oui, j'imagine quand même, mais enfin, oui. Vous êtes très proche, vous regardez soit avec des jumelles, soit avec l'appareil photo.
Évidemment, c'est en tant qu'association liée sur la protection de l'environnement, on s'intéresse effectivement à la protection de toute la faune et la flore qui sont ici, et on constate, nous, même sur nos secteurs, qu'effectivement, il y a un certain nombre d'espèces qui se font de plus en plus rares. Donc, soit au niveau de la faune, mais aussi de la flore, puisque on regrette aussi un certain nombre de cultures qui sont de plus en plus intensives, qui tendent à détruire et l'utilisation de certain nombre de pesticides, de nitrates. On en a parlé dernièrement avec la pollution de l'eau sur l'Aveyron.
Tiens, question piège, Daniel. Je vous préviens à l'avance. Là, on est au mois de mai. Donc, vous qui êtes proche de la nature, de la faune, de la flore, de la biodiversité. Au mois de mai, là, alors, à Ballan, bon, remarque, il y a déjà un peu de chantier, donc il y a déjà peut-être un petit peu moins d'animaux. Mais bon, ou sur l'équivalent de ce à quoi ressemble ce terrain, enfin ces terrains sur lesquels devrait être construit ce parc des expositions. Qu'est-ce qu'on pourrait voir en ce moment en se faisant tout petit, en se mettant dans un buisson qu'est-ce que...
La période actuelle, c'est la période de nidification des oiseaux.
Ouais.
Donc les espèces d'oiseaux qu'on a parlé, là effectivement sur Malin, au point où en sont les travaux, je pense qu'ils ont déjà déménagé et été voir ailleurs s'ils n'ont pas été détruits. S'il y avait des nids, ils ont été détruits. Je peux juste rappeler d'un point de vue réglementaire qu'il est interdit du 1er avril au 1er juillet de toucher à toutes les haies parce que c'est des périodes de nidification. Même les agriculteurs, etc., n'ont pas le droit de toucher aux haies pendant ces périodes-là. Donc c'est une interdiction nationale de toucher aux haies pour préserver effectivement la nidification au printemps.
D'accord. Donc pour vous, là à Malan, on est dans du terrassement en ce moment, hein, je crois bien.
Vu les travaux qu'il y a à Malan actuellement, je pense que les espèces qui étaient prévues, qui habitaient sur place, ont déjà déménagé ou ont été détruites. Les chantiers les engins de chantier et les travaux qu'il y a actuellement ne permettent pas à ces différentes espèces d'oiseaux de nicher correctement.
D'accord, donc la fauvette à tête noire, le pivert, la buse variable, le rossignol, la Malan. Pour vous, il n'y en a plus, c'est pas la peine que...
Je pense qu'actuellement, ça va être difficile d'en retrouver vu l'état des travaux. Donc, on peut le déplorer et je ne suis pas sûr que si nous allons dans le domaine de Combelle, nous retrouvions toutes les espèces qui étaient sur le site précédemment.
Merci beaucoup, Daniel Mazel, d'avoir été avec nous sur CFM pour ces rendez-vous désormais hebdomadaires avec le collectif pour la préservation des terres agricoles du Ruthénois. La semaine prochaine, a priori, ça sera les routes au menu.
On peut parler, la semaine prochaine, il est prévu de parler des impacts routiers à tous ces aménagements.
C'est une autre histoire. Merci beaucoup.
Merci.
À suivre, chat, alors, comme tous les vendredis, Louis et le sens du goût chez le petit félin, c'est le menu. Il y a un de ces deux sens où le chat est moins fort que nous. Lequel? Vous le saurez après les Red Hot Chili Peppers, Road Trippin' sur CFM Rhodes.
Road trippin' with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. It's so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for
FM Rodez, le mag.
Bonjour, Emeline Blanc-Gauthier. J'ai fait d'une de mes passions mon métier. Je suis consultante en comportement félin. J'interviens pour anticiper ou résoudre des attitudes félines gênantes pour leur humain. Chaque semaine, sur CFM Radio, je vous parle des chats. Nous sommes en mai et nous apprécions de redécouvrir les richesses du printemps. C'est pour cela que j'ai choisi de vous parler des capacités sensorielles du chat. Ce thème a été abordé par mes consoeurs Céline Huet-Amcheng et Brunhilde Ragmadou, toutes deux adhérentes au collectif des consultants en comportement félin, CATUS. C'est avec leur autorisation que je vous lis leur article. Après l'olfaction et la vision dont on a parlé la semaine dernière, parlons de l'ouïe du chat. Les oreilles du chat sont des super radars. Même lorsqu'il dort, celles-ci sont en alerte. Dès sa naissance, les pavillons auriculaires du petit félin ont des mouvements spontanés et s'orientent très vite vers différentes stimulations tactiles, visuelles et auditives. Mais il ne les maîtrisera pleinement qu'à l'âge de 3 semaines. Ces deux pavillons ont la particularité de pouvoir bouger indépendamment l'un de l'autre. Chaque oreille possède 32 muscles et bouge à 180 degrés. Le chat peut percevoir des basses et des hautes fréquences comme des ultrasons de l'ordre de 60 000 Hz. En comparaison, l'oreille humaine perçoit les sons jusqu'à 20 000 Hz. La communication acoustique joue un rôle essentiel et permet au chat d'être averti d'un danger éventuel, de trouver un partenaire, de retrouver un chaton qui s'est écarté du nid, de s'orienter ou encore de détecter une proie. La nuit, ce sens est encore plus particulièrement sollicité. N'oubliez pas de préserver les oreilles de votre chat, non seulement côté entretien, à voir avec votre vétérinaire, mais encore en faisant attention à certains bruits qui peuvent être considérés comme forts ou particulièrement inattendus pour lui et donc l'importuner. Maintenant, parlons du goût du chat. Ce sens est en action dès la naissance du chaton. Il évolue au cours de son développement. Si l'alimentation de la maman exerce une forte influence sur lui, les expériences qu'il pourra effectuer par la suite joueront aussi grandement. Le chat goûte en premier lieu par le nez. Une odeur, en effet, peut lui suffire à déclencher des réactions de rejet. Si la première ingestion est qualifiée de mauvaise par le chat, celui-ci pourra refuser l'aliment en question par la suite. De même, la perte de l'odorat en cas de maladie, par exemple le coryza, va influencer la prise alimentaire. Le chat ne pouvant sentir sa nourriture va la rejeter, ce qui n'aidera pas à améliorer son état général. Si au niveau de sa bouche, ce sens se concentre sur le bout de la langue, qu'en est-il des 4 saveurs de base que nous connaissons? Le petit félin ne les perçoit pas toutes avec la même acuité. Si le chat est extrêmement sensible à l'amer, il se révèle peu sensible au sucré, voire pas du tout selon une étude récente. Et si l'acide est la saveur qu'il détecte le plus, sa capacité à quantifier le salé reste toujours complexe à expliquer à ce jour. Comme vous l'aurez compris, les bourgeons gustatifs sont nettement moins développés chez le chat que chez l'humain, environ 473 contre 9000. Ainsi, les saveurs des aliments sont beaucoup moins prononcées pour lui que pour nous. Si votre chat vous paraît difficile à nourrir, tournez-vous vers votre vétérinaire qui vérifiera son état de santé et qui pourra vous conseiller sur son alimentation. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique Chat alors sur CFM Radio. En attendant, rendez-vous sur Facebook et Instagram Comportementaliste Félin 12 et sur mon site internet comportementalistefélin.com.
Merci Emeline et à la semaine prochaine évidemment. Voilà, c'est déjà la fin du mag pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour une nouvelle édition. En attendant, bonne journée et bon week-end.